Et bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur l'antenne d'Odo Radio, Odo Radio, la radio des Hauts-de-Garonne. Et on est ravis bien sûr de vous retrouver avec toute l'équipe du journal d'information locale et culturelle. Voilà, juste avant de vous annoncer le sommaire, bien sûr, si vous êtes des fidèles, vous le savez. Je vais rappeler, hein, ce sont des prérogatives, comme je rappelle de manière récurrente, de l'ARCOM, de rappeler le siglage. Donc autant le faire en début du journal. Voilà, vous pouvez nous suivre par la bande FM, le 91.3, dans quasiment tout le département de la Gironde, et ce depuis le 10 juillet 1997. On peut nous suivre également via notre site odoradio.fr, qui, comme tout site internet, bien sûr, vous délivre plein de belles infos et surtout la possibilité de venir réentendre, pourquoi pas s'enregistrer, bien, toutes nos émissions. C'est un service gratuit. Puis je rappelle, c'est vraiment intuitif, hein. Page d'accueil, en deux clics, vous y arrivez. Et troisième vecteur de communication, c'est le DAB ou DAB+, cet acronyme anglais qui signifie que la radio numérique terrestre. Et là, il faut bien sûr avoir le poste récepteur adéquate, et puis là la zone géographique est également assez délimitée ou limitée, hein, c'est selon. Voilà, c'est la métropole bordelaise. Les rappels récurrents réalisés tout de suite, le sommaire du journal et du magazine thématique à suivre en ce vendredi 13 mars. Voilà, sur la partie journal, c'est Hugo qui va nous décliner quelques brèves d'infos d'ici quelques instants. Ravi de retrouver Isabelle, Karl. On va parler de la 7e édition du salon du bébé et de l'enfant. Voilà, ça va se dérouler les samedis et dimanches 21 et 22 mars à Darwin. Voilà, mais on va en parler avec force détail avec notre invitée du jour, organisatrice de ce salon. Pour la partie musicale, voilà, c'est toujours un dilemme de choisir. On ne peut pas diffuser chaque jour pléthore d'artistes. Donc aujourd'hui, on va écouter Lilywood and the Prick, voilà, qui sera en concert ce samedi 14 mars, demain au Rocher de Palmer à la salle 1200. En fonction du timing, je verrai si je pourrais ajouter sur la partie agenda 2 ou 3 infos. Et comme tous les vendredis, voilà, juste après notre journal, c'est le magazine juridique et social Défendez-vous, présenté et réalisé par Maître Paul Cesso. Et aujourd'hui, la thématique abordée va être valeur juridique du droit au logement opposée à celle du droit de propriété. Voilà pour le sommaire, le programme, le menu du journal et du magazine à suivre. Et tout de suite, pour ouvrir notre journal, c'est donc Hugo qui va nous présenter quelques brèves. Bonjour Hugo.
Bonjour Joël, bonjour à toutes et à tous. Démarrons ces brèves en faisant un tour du côté de la piscine intercommunale Nelson Mandela située à Bassens. De 9h à 12h et dans le cadre de la semaine Petite Enfance, un atelier bébé nageur est organisé ce samedi. À partir de l'âge de 6 mois et jusqu'à l'âge de 4 ans, les enfants pourront apprendre à nager avec un accompagnant par enfant dans la piscine. Les couches aquatiques et les bonnets de bain sont obligatoires, le nombre de places est limité et une inscription est nécessaire. Allons alors moi à présent à la médiathèque du Bois Fleuri. Une masterclass de trompette aura lieu ce samedi dans le cadre de Mars au féminin. De 10h à 12h, l'école municipale de musique, danse et théâtre va mettre à l'honneur des artistes féminines en invitant la trompettiste Pauline Dutoit. L'entrée est libre et pour plus d'informations, vous pouvez aller sur le site de l'école de musique de Lormont. Il y a très rarement dans ces brèves du sport, mais pour une fois, on va en parler un tout petit peu. Si l'équipe première de l'US Senon n'a pas de match avant le 22 mars, ce n'est pas le cas des jeunes. Ce samedi, à partir de 10h30, 4 matchs auront lieu. 2 matchs pour les réserves des U10 et des U12, puis un match des U14 féminines, et enfin un match des U15 féminines, qui commencera à 15h. À Senon, c'est un appel à candidature de la mairie cette fois. Dans le cadre de la fête du Cypressa, la ville recherche 4 food trucks et 2 stands fixes, un salé et un sucré. Au-delà des normes d'hygiène habituelles demandées pour ce genre de choses, une offre culinaire variée est demandée, ainsi que des produits traçables et un respect de l'environnement. Pour les food trucks, la redevance est de 100€ et pour les stands, elle est de 50€. Pour poser une candidature, vous avez jusqu'au mercredi 8 avril à 12h, soit par voie postale, soit par mail. Votre candidature doit contenir une lettre de motivation ainsi qu'un tas de documents que vous pouvez retrouver sur le site de Senon. Pour terminer, rappelons que c'est le premier tour des municipales ce dimanche. Même si cela vous ennuie, ne vous abstenez pas. Le seul moyen de défendre le droit de vote est d'en faire usage, et par les temps qui courent, c'est plus que nécessaire.
Allez, merci Hugo pour ces quelques brèves. Et juste avant de retrouver notre invitée Isabelle, voilà, Elliot qui est à nos côtés va nous quitter. Donc voilà, je ne l'ai pas prévenu. Elliot, ça vous ennuie de prendre le micro exceptionnellement? Voilà, ça va pas durer longtemps. Voilà, ouais. Elliot, je vous ai pas prévenu, mais c'est un des petits protocoles. Voilà, juste en 30 secondes, voilà, c'est un moyen de vous remercier. Donc, Elliot, en deux mots, rappelez-nous sur quel cursus vous êtes.
Alors, moi, je suis en bachelor son cinéma audiovisuel à l'école 3IS à Bègles. Et donc, ça se passe en 3 ans et je suis en deuxième année, là.
Voilà, alors la découverte ou redécouverte de la radio, c'était un monde que vous connaissiez, parce que tout le monde écoute à un moment donné, bien sûr, la radio, mais d'avoir vécu comme ça de l'intérieur, entre guillemets, belle expérience, vous n'êtes pas obligé de dire oui. Hein.
Ouais, non, c'était sympa, je ne m'attendais pas à ça. J'étais plutôt content parce que j'ai pu pas mal expérimenter. J'ai vraiment. Mon maître de stage, qui est Nico, m'a permis. Oui.
Non, je rigole, Nicolas, oui.
De prendre en main la console, et c'était vraiment cool, j'ai eu pas mal d'autonomie. Et ouais, la radio, c'était un truc que j'écoutais petit beaucoup, maintenant un peu moins, mais du coup, j'aime bien, j'ai trouvé que ça hyper sympa comme expérience quand même.
La suite pour vous, Elliot, après ce stage?
Bah là, je vais reprendre les cours pour finir mon année, et après, le but, ça va être de chercher une alternance. C'est pas facile de trouver, mais voilà, je démords pas.
En deux mots, l'alternance, vous voulez en dire un petit peu plus sur ce que vous recherchez pour la saison prochaine? On ne sait jamais, hein, si quelqu'un nous écoute, qui s'y met justement.
Si vous nous écoutez et que vous êtes dans mon secteur d'activité, c'est-à-dire le cinéma, l'audiovisuel, le studio de sound design, par exemple, ou des choses comme ça, bah, je cherche une alternance pour l'année prochaine. Voilà. C'est une petite lettre à la poste, mais...
Voilà, mais c'est bien de le faire. Voilà, donc n'hésitez pas. Et puis même si on nous écoute en diffusant autre, on n'hésitera pas à transmettre. En tout cas, Elliot, au nom de toute l'équipe, hein, voilà, bravo pour tout le travail accompli à nos côtés, avec toujours enthousiasme, bonne humeur, pertinence et professionnalisme. Vous avez le droit de rougir. En tout cas, merci. Voilà, Elliot, on aime bien le faire en direct. Donc j'espère que le cœur a tenu. Allez, on est toujours en direct en ce vendredi 13 mars. Voilà, bonjour, bienvenue, Isabelle. Hein, désolé, il y avait un petit moment, mais c'est de bon aloi. Bonjour, bienvenue à Audo Radio.
Bonjour Joël, merci pour votre accueil.
Alors, on a eu l'occasion de se voir l'an dernier pour la 6e édition de ce salon, donc sans faire de bilan, c'est un salon qui a trouvé son public. On va rentrer dans le détail, bien sûr. En ce que je vous disais en préparant, là, je suis revenu sur l'édition 2025, voilà, avec plein de photos du monde, de l'enthousiasme, donc sans faire de bilan. C'est un salon qui a trouvé toute sa place.
Oui, je pense que c'est un événement qui existe depuis 10 ans maintenant, puisqu'il a été créé en 2016. Alors, il y a bien sûr eu une petite interruption à cause du Covid, et on a mis quelques temps à revenir. Mais au fil des années, on a vraiment trouvé notre public. C'est devenu vraiment le temps fort à Bordeaux autour de la périnatalité et de la parentalité.
Voilà, puis on peut dire à Bordeaux, mais peut-être au-delà. Hein.
Bien sûr, l'événement, je dis ça parce que l'événement se déroule
bien
à
sûr,
Bordeaux,
à Darwin,
rive droite. Mais l'événement accueille des familles qui viennent bien sûr d'au-delà de Bordeaux, dans les communes alentours, effectivement.
Alors ça s'adresse à qui, hein? Parce que là, je vois, c'est aux parents. J'ai bien aimé, il y avait entre parenthèses, futurs parents. Et puis quand on parle de parents, ça peut être grands-parents aussi. Les enfants peuvent venir, tout est pensé.
Effectivement, on s'adresse aux familles au sens large. Ça va de la grossesse jusqu'aux familles qui ont déjà des enfants, un ou plusieurs. Je dirais que les activités qui leur sont proposées sur place s'adressent jusqu'à un âge de 6 ans à peu près. Il y a certains ateliers qui sont proposés pour des plus grands cette année. Donc au fur et à mesure du temps, on élargit aussi notre public. Et bien sûr, on s'adresse aux grands-parents s'ils veulent venir prendre des renseignements pour leurs petits-enfants.
C'est toujours sympa.
Et aussi aux professionnels de santé et de petite enfance, parce qu'il y a des ateliers, cette année, il y a un atelier sur l'inclusion qui est proposé uniquement aux professionnels de petite enfance. Et les conférences peuvent parler à tous et peuvent être utiles aussi pour les professionnels de petite enfance.
Voilà, ça c'est important de le préciser. Voilà, le grand public, donc les familles sont bienvenues, mais même des professionnels sont les bienvenus. Alors, conférence, atelier, animation, stand. Je ne sais pas comment vous allez pouvoir tout me présenter, mais à minima, vous avez pris un exemple là. Mais après, on partagera, bien sûr, via vous avez un site internet, les réseaux sociaux. Mais dans les grandes lignes, on a le temps quand même un petit peu d'étayer les propos. Mais après, il y a tellement de propositions. Donc voilà, je vous laisse. Hein.
C'est vrai que le programme est très riche. Donc il y a un espace d'exposition qui accueille une cinquantaine de stands et où il y a plein de propositions d'animation dans cet espace. Et tout est pensé aussi pour que les familles... puissent avoir accès à leur, qu'on trouve réponse à leurs besoins. C'est-à-dire que leur visite doit être facile et agréable avec de jeunes enfants. Donc, s'il y a besoin d'allaiter son bébé, on peut se poser dans un espace qui est prévu à cet effet. De même, pour changer une couche, il y a un parcours de motricité pour les tout-petits, pour les 0-2 ans, qui est animé par les bébés des Capucines et qui a toujours beaucoup de succès. Un espace de jeu aussi est proposé aux plus grands, avec un château gonflable et puis des jeux en libre accès, de manière à ce que les enfants puissent passer un bon moment également pendant que les parents s'informent et se renseignent auprès de nos exposants. Au-delà de cet espace d'exposition, on a tout un programme d'ateliers qui est très riche, qui sont organisés vraiment par petits groupes pour que les échanges soient très qualitatifs avec nos intervenants. Je vous invite à aller sur le site web du salon, parce qu'effectivement, je n'ai pas le temps de tout dérouler. Du coup, les places sont limitées, c'est sur inscription, donc ça c'est à savoir, puisque certains ateliers sont déjà complets à date. Donc, voilà,
Bon, tant mieux, Jaïr. Des fois, on peut dire dommage pour les retardataires, mais tant mieux, ça montre une fois de plus que vous avez rencontré votre public, et puis voilà.
Exactement, bon. Mais certaines thématiques proposent encore des places. On a réussi aussi à en ajouter certaines.
Bon, ça, voilà, c'est sympa,
on essaye de répondre au mieux à
bien
la
sûr.
Demande. Et puis, on a deux temps forts aussi le samedi après-midi. Une table ronde qui s'intitule « Repenser le village autour des parents », qui promet d'être très intéressante, avec différentes intervenantes, et qui donc aura lieu dans la halle basse à Darwin à 15h. Et puis elle sera suivie d'une conférence « Autorité et bienveillance, oui c'est possible » à 16h30 et animée par Les Petits Sages, qui est un organisme de formation dédié à la petite enfance.
Donc les conférences, la jauge est peut-être un petit peu plus importante.
Bien sûr.
Là, il n'y a pas besoin de s'inscrire, il faut juste noter les horaires, bien sûr.
Alors, tout est sur inscription. Après, on peut s'inscrire une fois sur place si on ne sait pas encore quel sera le programme de notre week-end des 21 et 22 mars. Mais on conseille de s'inscrire, ça permet de gagner du temps à l'entrée.
Même en tant qu'organisateur, ça permet de pouvoir jauger, de voir que des activités affichent complet.
Exactement, ça nous permet de gérer les flux
pour l'accueil, etc.,
sur place plus facilement. Et puis après, aussi de s'assurer qu'on répond aux attentes de notre public via une enquête de satisfaction qui peut ensuite être diffusée à l'issue du salon.
Voilà, ça c'est important aussi, hein. Ça permet d'améliorer, même si bon, on se dit là c'est pensé, 7e édition, les stands. Alors c'est vrai que quand je vois les photos, donc c'est un village qui va s'animer.
Exactement.
Dans Darwin, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des pôles, d'un côté des stands spécifiques liés à une thématique
Alors, c'est pas organisé par thématique.
D'accord.
En revanche, on a effectivement deux pôles spécifiques qui sont le pôle associatif, donc là, qui n'est composé que d'associations, et un pôle qui regroupe des créatrices, donc qui conçoivent et fabriquent elles-mêmes leurs produits qu'elles proposent aux familles. Sinon, après, les thématiques sont assez variées sur les stands classiques. L'idée, c'est justement d'avoir une grande variété de propositions qui est faite aux familles qui nous rendent visite.
Bon, c'est vrai, hein, là je me remémore toutes ces photos. On peut citer quelques stands néanmoins, parce que j'ai eu beaucoup d'associations locales de garde d'enfants, mais pas que. Donc je ne sais pas si vous pouvez... ça serait compliqué peut-être de citer tout le monde. Et
oui,
puis,
malheureusement.
Faut vexer personne.
Exactement, c'est toujours un peu délicat.
Mais citer, là moi je mets en avant notamment des associations de garde d'enfants. Il y avait certaines marques, certaines ne seront pas là cette année. Si vous voulez en citer, ou des associations ou des structures, je veux dire, professionnelles, entre guillemets.
Oui, bien sûr. Alors, sur les associations, c'est assez varié. Il y a des associations de professionnels, comme l'association des sages-femmes de Gironde, qui sera présente cette année, aux côtés aussi de l'association française des accompagnantes périnatales, qui ont des professions très complémentaires. Il y a des associations de soutien aux familles, donc que ce soit effectivement pour la garde d'enfants, quand on a un pépin de mode de garde, SOS, urgence garde d'enfants. Des associations de soutien à l'allaitement, Solidarité la Gironde, de soutien aux parents au travers du club Poussette, de Bande de Mères. Enfin, c'est vrai que voilà, il y a beaucoup d'associations qui sont présentes chaque année à nos côtés. Sur les marques, alors c'est vrai que je vais citer les plus
fidèles. Oui, vous pouvez les citer, c'est pas de la pub, hein. Attention, on peut.
Je vais citer les plus fidèles, mais c'est vrai que voilà, j'aimerais toutes pouvoir les citer, mais on a Cultura qui est présent chaque année, on a Baby Bio sur l'alimentation infantile. Antilles, qui sont des entreprises locales aussi, je tiens à le rappeler, parce que les...
Il y a un ancrage local, donc
les gens ne le savent
on
pas
peut
toujours.
Pas passer à côté, bien sûr.
Les gens ne le savent pas toujours. On a les bébés des Capucines qui, effectivement, aussi animent le parcours de motricité proposé aux tout-petits. Qui pourrais-je citer d'autres ? Kids and Us, sur l'apprentissage de l'anglais, qui est présent depuis quasiment le tout début de cette aventure ABC Kids. Donc, je les remercie tous pour leur confiance. Et puis, on est ravis aussi d'accueillir de nouvelles marques. Chaque année, il y a des nouvelles des entités qui nous rejoignent dans cette aventure. Donc, c'est très chouette. On aura, par exemple, une marque parisienne, Mésamé, qui propose des tapis de jeux qui sont vraiment... super sympa, voilà, à faire découvrir aux familles.
Alors, beaucoup de structures fidèles. Puis c'est bien pour faire vivre un salon. Voilà, vous parlez de nouveautés. C'est vrai qu'il peut y avoir depuis la première édition, et puis ça fait 10 ans hein, que ça existe. Hein. On ne va pas rappeler les années Covid, post-Covid, etc. Donc, des partenaires fidèles. Donc, je présume qu'ils doivent vous demander presque dès l'édition terminée les prochaines échéances. Mais pour des nouveautés, c'est parce que voilà, vous évoluez dans ce milieu, donc si vous voyez qu'il y a une nouvelle asso, en se disant tiens, mais ça répond à une demande, à un besoin, il faut toujours rechercher.
Exactement, on est toujours ouverte à ce qui se passe dans cet environnement de la petite enfance. L'idée, c'est de proposer effectivement des nouveautés aux familles qui nous rendent visite, et puis chaque année, on a aussi des entreprises et des associations ou des créatrices qui viennent vers nous pour rejoindre l'événement.
Voilà, puis après, il faut s'adapter à l'espace, hein, qui est quand même immense. Ben pour les professionnels, par exemple, comment on communique vis-à-vis des professionnels ? Ils viennent de toute façon, de manière naturelle, il y a des animations spécifiques pour eux. Donc ça, c'est du réseautage, la fidélité aussi, parce que ça peut intéresser, pourquoi pas, hein, un étudiant, une étudiante qui veut travailler dans ce milieu, qui veut s'imprégner. C'est un des moyens aussi. Et puis, quelqu'un qui est déjà en activité, ben, c'est bien d'aller auprès de... Ben, rencontrer d'autres structures. Il faut bien connaître son environnement.
Exactement.
Donc, pour les professionnels, je ne sais pas si vous avez des paramètres ou des points annoncés de manière spécifique, parce que c'est ouvert au grand public, bien sûr.
Mais... C'est vraiment ouvert à tous. Et encore une fois, sur notamment le table ronde et conférences, je pense que les informations peuvent tout à fait intéresser les professionnels qui sont... chaque jour au contact des familles pour mieux les accompagner et les entourer.
On apprend toujours, hein, quoi qu'il arrive, même si on a des compétences, du savoir-faire.
Mais c'est vrai que ça s'est imposé un peu de façon naturelle, le fait d'intéresser ces pros qui, chaque année, viennent sur l'événement parce que ça les intéresse, que les thématiques abordées sont enrichissantes.
Oui, puis on compte du monde, les conférences, ça permet d'avoir des thématiques peut-être qui n'ont pas encore à aborder dans leur activité. On vous parlait d'enquête de satisfaction. Mm-hmm. Donc ça, tout le monde peut répondre. Ça se fait comment ? C'est papier, en numérique ou...
Non, on est passé en numérique maintenant. Non.
Bon, je m'en doutais un petit peu.
Depuis un petit moment.
Parce que je vois souvent dans des événements. Ce qui veut dire qu'on peut le remplir après coup.
Exactement, on a un QR code à la sortie du salon qui permet de donner à chaud son sentiment sur l'événement. Sinon, en général, on diffuse par email, d'où la demande d'inscription pour nos visiteurs. Ils reçoivent tout simplement un mail avec l'enquête quelques jours après le salon pour pouvoir nous faire un retour.
Et ça, c'est important hein, pour l'organisateur, parce que ça permet, parce que même si tout est pensé, ça peut permettre de pas d'améliorer, parce quand
on a toujours des petites choses à améliorer.
Voilà, c'est pour ça que je voulais pas être péjoratif. Donc ça, c'est important, bien sûr, de le rappeler. Alors, si on veut plus d'infos, hein, site internet, donc salon-abc-kids avec un z.fr, les réseaux sociaux.
Oui, nous sommes sur Facebook, Insta et LinkedIn.
Bon, donc là, si on veut trouver des compléments d'infos, là, il nous reste encore 2 ou 3 minutes. Je ne sais pas si vous voulez revenir sur un point particulier.
Je voudrais préciser que l'entrée au salon, aux conférences et aux animations est gratuite
oui,
pour tous.
Vous faites bien, je ne sais plus si on l'a précisé, bien sûr.
Cette année, on a ouvert aussi à une participation libre pour ceux qui souhaitent soutenir l'événement pour qu'il puisse durer le plus longtemps possible. Et cette année, la nouveauté, c'est que les ateliers, pour les ateliers, on demande une participation de 5 €, qui reste accessible, mais on avait trop d'absentéisme sur les éditions précédentes où tout était gratuit. Malheureusement, on a dû faire ce choix-là
pour
respecter le travail des intervenants qui donnent de leur temps qui viennent animer des ateliers vraiment qualitatifs. Donc on a cette année cette participation qui est demandée de 5 € pour l'inscription à un atelier.
On a à peu près tout dit aujourd'hui. Il y aurait tellement de choses à dire.
Hein, oui, bien on sûr, pourrait y passer des heures.
Isabelle, je ne sais pas là dans les points. Bon, je pense que vous avez été assez large. Après, si vous voulez rajouter quelque chose, je pense que dans les grandes lignes, c'était bien de repréciser que c'est en accès libre. Après, qu'il y a une participation. Ah oui, peut-être sur l'aspect parce que Darwin, l'espace Darwin Écosystème, c'est vrai que il y a sur place bar, etc. Parce que pour le côté, vous, les amplitudes horaires, oui. Je ne sais pas si on les a précisées. 10h, 18h.
Exactement. Exactement, c'est ouvert au public donc le samedi 21 et le dimanche 22 mars de 10h à 18h.
Voilà, donc là on peut passer une journée là-bas donc sur la partie parce que bon, on a toujours une petite soif, hein, une petite faim. Donc ça, je ne sais pas si c'est sur le salon enfin ou si ce sont les l'espace Darwin qui a déjà une infrastructure. C'est l'infrastructure bien sûr.
Effectivement, c'est l'avantage de l'espace Darwin, c'est qu'il y a le magasin général qui permet de se restaurer pour nos visiteurs et compte tenu de l'événement qui s'installe. Sur le week-end, ils font aussi appel à des food trucks en supplément pour pouvoir répondre à plus de demandes et avoir une variété plus importante de produits proposés.
Voilà,
donc il est possible de se restaurer sur place. Et nous, dans l'enceinte du salon, l'espace aussi est prévu pour nourrir son bébé si besoin avec des micro-ondes pour faire chauffer les petits pots.
Tout est pensé. Hein.
Et des chaises hautes pour nourrir son bébé en toute sérénité.
Très bien. Isabelle, je vous pose la question. Il y aura une 8e édition ?
Je l'espère.
Pour vivre la 7e, bien sûr, on est d'accord.
Effectivement, on va déjà profiter de cette 7e édition. Venez nombreux, n'hésitez pas à en parler autour de vous.
Voilà, puis c'est vrai que dans les questions pratiques, comme ça on sera pas complet, mais presque. 87 quai des Cléris, mais je pense que l'espace Darwin, tout le monde connaît. Donc pour les déplacements doux, voilà, on n'est pas très loin de la place Stalingrad, donc il y a tous les moyens d'y arriver. Voilà. Mais Isabelle, merci beaucoup.
Merci à
vous.
On vous
souhaite un bon salon.
Merci beaucoup.
Et puis j'espère qu'il y aura du monde. Combien de personnes attendues ?
Alors l'an dernier, on a accueilli 2500 personnes. Après, on sait que le temps joue beaucoup, la météo.
Oui,
donc,
je ne saurais vous poser la question du coup, quelle sera la météo sur le week-end 21-22 mars ?
Je préfère ne pas la regarder.
En tout cas, merci pour l'enthousiasme et puis voilà, on ne va pas hésiter à recommuniquer d'ici là. Allez, joueur de l'heure, allez, j'ai juste annoncé, Elliot, deux ou trois infos pour être bien dans le timing. Voilà, juste deux ou trois infos sur la partie agenda culturel, voilà, avec des événements prévus ce vendredi soir, notamment au Rocher de Palmer. Voilà, avec Dan Arbras, voilà, si vous aimez l'ambiance rock celtique, c'est à la salle 650. Alors le groupe bordelais, même s'il tourne beaucoup à l'international, les Hurlements de Léo vont fêter plus de 25 ans de carrière. Et puis on les connaît, ils aiment bien partager la scène, les albums. Donc ils ne seront pas seuls ce soir à la salle 1200. Il y aura les Fils de Tepu et il y aura Fred des Ogres de Barbac. Et son nom d'artiste, du coup, ça devient Fred Ogre, voilà, de Barbac. Donc ça va être belle ambiance, je pense. Il y aura du théâtre par la compagnie Théâtre d'Homme. Voilà, ce sera à Florac ce vendredi à l'M270, la maison des savoirs partagés. Et vous aurez une exposition aussi. C'est tout une série d'événements proposés par la ville de Florac à l'occasion de la journée de dimanche dernier, la journée internationale des droits des femmes. Mais voilà, quand on est militant, ça ne s'arrête pas une journée. Donc ils ont d'autres événements. On en parlera ultérieurement. Et notamment cette exposition Wall of Femmes, voilà, j'ai essayé pour bien mettre en avant le jeu de mots, et ça c'est à l'auditorium de Florac, voilà, exposition du collectif Docteur Larsen qui met en lumière des figures féminines inspirantes, c'est en accès libre à partir d'aujourd'hui jusqu'à vendredi 20 mars prochain, voilà, et puis parmi les autres événements, comme je ne vais pas pouvoir tout annoncer, voilà, on ne va pas faire du copinage, mais nos voisins et amis du théâtralisé ici, Domaine du Loret, vous proposent ce vendredi soir le spectacle Prévert et moi à l'Oscillotéâtroscope, 20h45, et ça part à l'heure, ça je peux vous le confirmer, et c'est la compagnie En Chantier Théâtre de Libourne qui vient proposer ce spectacle. Et si vous allez sur le site dédié Oscillotéâtroscope, vous avez toutes les bonnes infos, comment réserver, il y a souvent un teaser, des extraits et tous les renseignements pratiques. Allez, on va se quitter avec Lilywood and the Prick juste avant de retrouver le magazine juridique et social Défendez-vous, et le temps de remercier à nouveau Elliot. On vous souhaite plein de belles choses pour la suite. Hugo, pareil, mais on vous garde encore un petit peu. Et grand merci à Isabelle, voilà, Carl, organisatrice de la 6e édition du Salon du bébé et de l'enfant de Bordeaux, ABC Kids, voilà, samedi 21, dimanche 22. Promis, on repartage sur les réseaux sociaux. Allez, Lilywood and the Prick avant leur concert de demain soir au Rocher de Palmer. Et en suivant, ce sera Défendez-vous, le magazine.
Magazine juridique et social, Défendez-vous, présenté par Maître Paul Cesseau.
Bonjour, vous êtes bien sûr Audio Radio pour votre émission du vendredi midi, Défendez-vous. Et cette semaine, je vais aborder la question du droit au logement opposé au droit de propriété sur une thématique plus juridique. Mais d'actualité, à la fois dans les soucis du quotidien d'un certain nombre de personnes, et d'actualité pour le cabinet, compte tenu d'un certain nombre de litiges qui me sont présentés sur cette problématique, et suite à une intervention pour l'Institut des droits de l'homme du barreau de Bordeaux. L'idée étant de déterminer quelle est la valeur du droit au logement dans notre droit actuel, éventuellement de dessiner des tendances, et dans quelle mesure il s'oppose au droit de propriété. Ce qui est d'actualité au niveau social, compte tenu des difficultés de logement rencontrées par nombre de personnes dont on entend parler dans les médias d'ailleurs, puisque les prix de l'immobilier augmentent sous la pression de différents éléments. Il est de plus en plus difficile de se loger, et lorsque l'on a une demande de logement social, il y a de longs mois, voire quelques années d'attente pour que cette demande soit satisfaite, période pendant laquelle certaines familles ou certaines personnes peuvent se retrouver en difficulté. Alors il y avait un numéro de courrier international du 12 février 2026 récent, donc, qui reprend la situation au niveau européen. Qui évoque aussi la situation en France, mais en notant qu'entre 2015 et 2025, les prix d'immobilier ont bondi de 60% dans l'Union européenne en moyenne. C'est-à-dire qu'il y a des pays dans lesquels c'est plus, par exemple en Hongrie, 237%, 135% en République tchèque, et les loyers ont augmenté de 27% en moyenne dans toute l'Union européenne. En conséquence de quoi, l'âge moyen d'émancipation en Europe est de 26 ans, c'est-à-dire du départ des jeunes du domicile parental, et sachant que certains pays du sud de l'Europe, en Italie, Espagne ou Grèce, en général, c'est plutôt 30 ans. Le dernier rapport de la Fondation pour le logement des défavorisés explique que 2025 a été encore une année très difficile, avec environ 350 000 personnes sans domicile fixe, ce qui est quand même très important, c'est-à-dire 20 000 de plus qu'en 2023, mais surtout deux fois plus qu'il y a 10 ans. Un recensement INSEE de 2020, donc qui n'est pas tout récent, mais qui est relativement tout de même, et qui reste d'actualité, fait ressortir qu'à Paris, par exemple, près d'un logement sur 5 est inoccupé, ce qui est quand même particulièrement important, surtout dans le contexte de pénurie de logements actuels. Donc un certain nombre de personnes ont des difficultés pour se loger, se reloger lorsqu'ils sont dans un habitat insalubre, etc. Alors, sans évoquer la question du droit au logement d'ALO et des procédures qui existent, donc qui permettent de se faire reconnaître prioritaire et de se faire attribuer un logement, que l'on pourra évoquer d'ailleurs dans une autre émission, là la question était plus théorique, de voir par rapport à cette urgence sociale dans quelle mesure le droit au logement est reconnu juridiquement, et de le comparer à en valeur ou en poids juridique le droit de propriété. Alors c'est vrai que quand on remonte un peu dans l'histoire des termes droit au logement, on ne va pas remonter très loin, au contraire du droit de propriété où on peut remonter pour le code civil à 1804 avec un texte inchangé, mais pour le droit au logement, donc le droit de propriété, on peut remonter avant évidemment, mais là pour prendre notre code actuel, donc pour le droit au logement, en fait on va commencer, c'est l'ère industrielle en fait qui va permettre à ce droit, à cette en tout cas idée, de commencer à faire son chemin dans l'esprit du législateur, avec a priori une première loi que j'ai trouvée qui date d'avril 1950 sur l'assainissement des logements insalubres. La loi, donc déjà on en parlait, on continue à en parler, la loi définissait l'insalubrité et favorisait l'intervention des communes pour obliger les propriétaires à réaliser des travaux dans des cas graves. Mais déjà c'est une loi qui avait été d'application assez limité, mais on va commencer vraiment à parler de droit au logement à partir du début du XXe siècle, principalement suivant les crises qui font suite aux deux guerres mondiales. Donc on a différents textes, à la fois en droit international et en droit français, qui évoquent le droit au logement. Par exemple, la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui nous explique que toute personne a un droit à un niveau de vie suffisant pour assurer donc sa santé, son bien-être, ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement et le logement, nous dit-on. La Charte sociale européenne nous dit que en vue d'assurer l'exercice effectif du droit au logement, les parties s'engagent à prendre des mesures qui sont destinées à favoriser l'accès au logement d'un niveau suffisant, prévenir et réduire l'état de sans-abri en vue de son élimination progressive, donc on n'y est pas encore, on a compris, et à rendre le coût du logement accessible aux personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes. Le problème, c'est que cette charte sociale européenne, n'a pas d'effet direct. Jugé à différentes reprises, notamment par la Cour de cassation en 2022, pas sur ces stipulations, mais sur à l'occasion de barèmes, à l'occasion des barèmes Macron, qui nous avait fait en son temps un petit feuilleton dans l'émission, jusqu'à ce qu'il y ait le sujet qui soit régulier. Mais la Cour de cassation avait donc indiqué que pour avoir un effet direct, ça avait déjà été jugé au demeurant par le Conseil d'État auparavant, il y a un effet direct dès que les stipulations créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir, et que, eu égard à l'intention exprimée des parties à l'économie générale du traité invoqué, à son contenu et à ses termes, donc les stipulations du traité n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre États, et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers. Bon, c'est-à-dire, quand on voit que dans la Charte sociale européenne, l'article 31 nous dit qu'en vue d'assurer l'exercice effectif du droit au logement, les parties s'engagent, donc c'est-à-dire que les parties, ce sont les États, donc ce sont les États qui s'engagent à faire un certain nombre de choses. Bon, on comprend que cela n'aura pas d'effet direct. On peut préciser que également la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui sont des textes importants, mais pareil, n'a pas plus d'effet direct, et elle garantit le droit à une aide au logement, ce qui n'est peut-être pas exactement la même chose. Alors, on peut se reporter également à la Convention européenne de sauvegarde des droits d'homme et des libertés fondamentales, qui, elle, ne dit rien sur la question du droit au logement, mais qui va le traiter, mais on peut le traiter sous différents angles. Par exemple, sous l'angle du droit à un procès équitable, par exemple, lorsqu'il y a un défaut d'exécution d'une décision d'un tribunal en matière d'allô, justement, ou de l'article 3, c'est les traitements inhumains et dégradants, par exemple, lorsqu'il y a des destructions de logement ou lorsqu'il y a un habitat impropre à l'habitation, et surtout sous l'angle du respect du domicile, c'est-à-dire c'est l'article 8 de la Convention dont on parle souvent pour le droit au respect de la vie privée et familiale, et on oublie souvent que en fait le petit 1 nous dit donc que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. D'ailleurs, c'est également mentionné. Mais donc de son domicile, et c'est sous cet angle-là que l'on peut aborder la question, étant précisé donc que, bien sûr, en matière de convention européenne et de droit de l'homme, le petit 2 précise qu'il peut y avoir une ingérence, mais que si elle est prévue par la loi, elle ne constitue pas une mesure, et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, aux protections des droits et libertés d'autrui. Donc voilà pour le droit international. En droit interne, on a une loi. D'une loi du 31 mai 1990 qui vise à la mise en œuvre du droit au logement, dont l'article 1er donc, nous dit garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l'ensemble de la nation. mais qui est traduit ensuite de la manière suivante. C'est-à-dire que toute personne ou famille qui éprouve des difficultés particulières en raison notamment d'une inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence a droit à une aide de la collectivité dans les conditions fixées par la loi pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie, de services téléphoniques, etc. C'est surtout des déclarations d'intention. Alors il y a des gens qui ont posé la question au Conseil constitutionnel dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité la compatibilité de l'article 544 du Code civil. Alors, l'article 544 du Code civil, c'est celui qui porte sur le droit de propriété. Et qui nous explique donc que la propriété, le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. C'est un article qui date du Code civil, qui est en vigueur depuis le 21 mars 1804 et qui n'a pas été modifié. Ils se font de plus en plus rares, ceux-là. Beaucoup d'autres ont été modifiés. Certains ne le sont pas, ne l'ont pas été. Alors. Donc, ils ont posé la question au Conseil constitutionnel dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité de la compatibilité donc de cet article 544 à différents principes, notamment au droit au logement. Alors, je rappelle que la question prioritaire de constitutionnalité, qu'on appelle nous QPC, c'est la possibilité pour des parties dans un procès de saisir le Conseil constitutionnel par le filtre de la juridiction qui est saisie du litige et qui les oppose, donc de saisir le Conseil constitutionnel de la question de la constitutionnalité du texte qui leur est applicable. Auparavant, seul pouvait saisir le Conseil constitutionnel. Donc, on ne pouvait saisir le Conseil constitutionnel qu'avant la promulgation d'une loi. Et c'était pas les citoyens, c'était députés, sénateurs, en nombre suffisant ou les présidents des assemblées, etc., on pouvait saisir, mais pas les simples particuliers, pour faire synthétique. Et donc là, la question prioritaire de constitutionnalité a permis aux plaideurs, disons, de saisir indirectement le Conseil constitutionnel, et ça a généré, c'était l'occasion d'un certain nombre d'émissions, un contentieux important et riche, en quantité et en qualité, et on a vu un certain nombre de lois, anciennes et moins anciennes, dont le Conseil constitutionnel considérait qu'elles étaient contraires à la Constitution. Bon, là, alors là, la question était de savoir dans quelle mesure le droit de propriété était compatible avec notamment le droit au logement, puisqu'il était expliqué que le caractère absolu du droit de propriété conduit à ce que toute occupation sans droit ni titre du bien d'autrui soit considérée par la juridiction civile comme un trouble manifestement illicite, permettant au propriétaire d'obtenir en référé l'expulsion des occupants, et que par ses conséquences sur la situation des personnes qui vivent dans des résidences mobiles, bon, c'était l'occasion du litige, la définition du droit de propriété porte une atteinte au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation, au droit de mener une vie familiale normale et à l'objectif de valeur constitutionnelle que constitue le droit au logement. Ça, c'était ce qui était soutenu par les plaideurs. Et du coup, le Conseil constitutionnel va nous définir, ou de quoi nous rappeler, mais là c'était l'occasion de le faire, définir, rappeler la portée juridique du droit au logement. Et il rappelle, en se fondant sur la Constitution de 1946, que celle-ci prévoit que la nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. Alors, pour rappel, le Conseil constitutionnel va juger par rapport au bloc de constitutionnalité, c'est-à-dire la Constitution de 1958, donc toutes les choses qui sont techniques, qui sont prévues par la Constitution, mais aussi par rapport au préambule, et qui renvoie lequel préambule de notre constitution actuelle de 1958 renvoie donc notamment à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, mais aussi au préambule de la Constitution de 1946, qui est assez riche et qui va porter là sur des droits. Droits, on va dire, plus sociaux, tandis que ceux de 1789, qui étaient pris en réaction à l'ancien régime et à l'opacité juridique et à la toute-puissance de la monarchie, donc sous l'ancien régime, donc les droits de 1789 étaient plus des droits, on va dire, politique et de liberté, donc tandis que en 1946 on va s'inspirer aussi de droits sociaux et de notions plus émergentes. Bon, ça pour faire un petit aparté sur ce renvoi au préambule de la Constitution 1956, Constitution qui elle ne s'applique plus évidemment, et donc le Conseil rappelle également que la nation garantit à tous la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et le loisir, et que tout être humain qui, en raison de son âge, son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. Donc on nous dit que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre d'autres formes de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle. Très bien, donc on nous rappelle des principes à valeur constitutionnelle, et pour nous dire, donc dans le petit 5, qu'il résulte de ces principes que la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent est un objectif de valeur constitutionnelle. Donc on a un certain nombre de principes qui sont établis par, qui ressortent de la Constitution, notamment du préambule de la Constitution de 1946, mais ça accouche d'un objectif de valeur constitutionnelle, la question étant juridiquement qu'est-ce qu'un objectif de valeur constitutionnelle, qu'on va appeler OVC. Donc l'objectif de valeur constitutionnelle, c'est une notion qui va permettre au Conseil constitutionnel de justifier les atteintes que le législateur va porter aux droits de propriété, mais qu'on ne peut pas invoquer directement. C'est-à-dire que l'objectif de valeur constitutionnelle n'énonce pas un droit, mais un objectif que le législateur doit prendre en compte quand il légifère, et qui lui permet donc de justifier et d'autoriser certaines limites apportées par la loi à des normes constitutionnelles. Mais on ne peut pas l'invoquer, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir s'en servir dans le contentieux des questions prioritaires de constitutionnalité. Et a priori, le Conseil constitutionnel a refusé de trancher la question de principe de l'invocabilité de l'objectif de valeur constitutionnelle dans le contentieux des QPC, c'est-à-dire dans le contentieux des questions prioritaires de constitutionnalité, c'est-à-dire qu'en l'état, on ne peut pas saisir le Conseil constitutionnel dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité sur un objectif de valeur constitutionnelle. Par contre, dans le contentieux qui continue à exister, en moins grand nombre, mais qui continue à exister, qui est celui de la saisine du Conseil constitutionnel avant la promulgation de la loi, à ce moment-là, ça peut être invoqué. Donc voilà ce qui est en substance un objectif de valeur constitutionnelle. Alors évidemment, l'objectif de valeur constitutionnelle qu'on ne peut pas invoquer directement, mais est peut-être un peu juridiquement faiblard par rapport aux droits de propriété, dont j'ai rappelé le caractère absolu en citant tout à l'heure l'article 544 du Code civil et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui nous dit dans son article 17 que la propriété tente un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est tout de même lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. Bon, tout ça, ça c'était en réaction à l'ancien régime. Alors à noter tout de même qu'au niveau européen, je parlais tout à l'heure de la Convention européenne des droits de l'homme, qui est de novembre 1950, elle ne protège pas en elle-même le droit de propriété. C'est-à-dire, si on va lire le texte de la Convention, le texte de la Convention ne prévoit pas le droit de propriété. Tout ça parce que il y avait eu de longues discussions et des conceptions différentes par les États au sein du Conseil de l'Europe, qui n'a rien à voir donc avec l'Union européenne, qui est l'organe au sein duquel a été établie la Convention. Et donc, du coup, ça n'a pas été visé dans la Convention elle-même, mais dans un protocole. Alors, c'est l'article 1er du premier protocole additionnel de 1952, donc ça a été quand même assez vite. C'est la première chose dont on s'est occupé. Et on nous dit que toute personne, physique ou morale, a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Bon. Et donc c'est l'occasion d'en revenir à ce que nous dit le Conseil d'État, donc, parce que je n'ai pas encore répondu à la question, j'ai maintenu un peu de suspense. Le Conseil constitutionnel nous dit donc, oui mais le droit au logement est un objectif valeur constitutionnelle, d'accord, mais je n'ai pas donné la réponse. Quand on l'oppose au droit de propriété, qu'est-ce qui se passe? Eh bien rien, puisqu'on nous dit que... l'article 544 qui définit le droit de propriété ne méconnaît pas, ne connaît par lui-même aucun droit ou liberté que la Constitution garantit. Bon, évidemment, puisqu'on a vu que le droit de propriété est un droit sacré et inviolable, l'objectif de valeur constitutionnelle peut permettre de le limiter, mais ne permet pas de considérer que le droit de propriété soit en lui-même contraire à la Constitution, en tout cas que l'article 544 du Code civil. Bon, c'était un peu couru d'avance, mais pour autant, la question a été jugée d'inintérêt puisqu'elle est allée jusqu'au Conseil constitutionnel qui a donc répondu. Et du coup, ben, vous avez un certain nombre d'arrêts de la Cour de cassation qui, en matière, en différentes matières d'ailleurs, en matière d'atteinte à la propriété et auquel on oppose le droit au logement ou le droit au domicile, va juger que l'on peut en référer, c'est-à-dire dans le cadre d'une procédure d'urgence, procéder à l'expulsion parce que on nous dit que l'expulsion ne saurait être disproportionnée et que toute occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite. Alors là, ça concerne un certain nombre de situations, pas que celle auxquelles on va nécessairement penser de prime abord, qui est celle du squat, mais qui est celle aussi de l'occupation. Par exemple, il y avait un dossier dans lequel des personnes se prévalaient de l'usucapion, c'est-à-dire de la possibilité d'acquérir la propriété par le temps qui passe, par la prescription. C'est-à-dire qu'ils avaient construit sur le terrain d'autrui, ils étaient restés pendant plus de 20 ans. Et donc sans que quiconque leur dise rien. Et donc la loi prévoit que ça c'est une possibilité d'un mode d'acquisition de la propriété. La Cour de cassation a considéré, alors, bon, dans les cas d'espèce, que cette prescription n'était pas acquise, mais surtout qu'il y avait lieu de prononcer la destruction, en l'occurrence, et l'expulsion concernant des gens qui étaient quand même très âgés, malades et en difficulté. Donc voilà, alors après, bon, il nous reste finalement un peu de temps. J'en suis qu'à la moitié de ce que j'avais prévu de dire. Alors, quels sont les textes, quels sont les textes qui existent pour trouver des solutions sur le logement par rapport aux difficultés qu'il peut y avoir au niveau du. Enfin, voilà, par rapport aux difficultés qu'il y a pour se loger. Et et par rapport à la toute puissance du droit de propriété quand on a par exemple des logements qui sont inoccupés depuis des années, inutilisés, ou des logements d'ailleurs qui peuvent servir de placement, immobilier. Il y a des droits de préemption pour construire des logements sociaux, il y a des possibilités de réquisition d'immeubles inoccupés, ça a été fait dans les années 90 sur la base d'un texte de 1945 et ça avait été fait aussi par le général de Gaulle en 47 qui à l'époque avait réquisitionné 88 000 logements donc maintenant c'est toujours prévu par les textes, il y a le code de construction et de l'habitation, un certain nombre de textes, mais bon, pour autant j'ai lu dans un article du Monde récent que le ministère de l'Intérieur n'avait pas été capable de donner les chiffres des réquisitions sur les dernières années, ce qui tendrait quand même à démontrer qu'a priori, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Et il y a un certain nombre de textes législatifs qui se multiplient pour venir protéger le droit de propriété et en même temps des projets, des propositions de loi qui viennent donc des parlementaires qui sont dans les placards, je vais dire, et qui ont tendance à y rester, non soutenus par le gouvernement. L'idée d'un texte récent étant de transférer en fait aux communes, c'est-à-dire aux maires, le pouvoir que tient le préfet dans la réquisition des logements vacants. Puisque si la possibilité existe, c'est le préfet et donc le représentant de l'État dans le département que le pouvoir appartient. Tandis que là, le projet de loi viserait à ce que ce soit le maire qui est donc sans doute plus au fait des difficultés à ce titre-là de sa commune. Bon, il y a des réticences un peu dans tous les sens sur ce sujet. Tout ça systématiquement en raison la protection accordée au droit de propriété, sans remettre en cause le droit de propriété. La question se pose lorsqu'on a clairement des logements qui sont inoccupés, de la possibilité de pouvoir les réquisitionner réellement et qui quand on est dans une zone dans laquelle il y a une pénurie de logements, sachant que il y a des atteintes aux droits de propriété qui se font par exemple en droit de l'urbanisme ou par exemple en droit de l'environnement, cas échéant, mais qui permettent par exemple pour l'urbanisme de contraindre à la rénovation de logements sous peine d'expropriation. Donc ce sont deux genres de textes qui existent déjà et que peut-être que face à des logements vacants, c'est ce genre d'option qui sera mise sur la table un jour avec de réelles applications des réquisitions. Sur ce, notre temps est à peine dépassé et je vous dis à bientôt et surtout à la semaine prochaine. Au revoir.